jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité sont deux invités, deux sociologues de générations différentes. Le premier est directeur d'études à l'EHESS et a commencé la sociologie dans les années 60. La seconde est directrice de recherche au CNRS et a découvert la sociologie dans les années 90 en lisant le premier. Entre octobre 2021 et février 2023, ils se sont vus semaine après semaine pour s'entretenir. De quoi ? De sociologie, évidemment. Comment sont-ils venus à cette discipline, quelle est leur méthode, comment entendent-ils œuvrer à la société grâce à leurs travaux et surtout comment défendre aujourd'hui la sociologie. Aujourd'hui, leurs échanges ont été publiés et ils sont ici pour en parler.
Bonjour Luc Boltanski.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans le studio des Midi de Culture. Jeanne Lazarus va nous rejoindre dans quelques instants.
Comment s'invente la sociologie ? C'est le titre de votre livre, donc écrit aussi avec Jeanne Lazarus et Arnaud Esquer. À la fin de l'avant-propos, Luc Boltanski, on peut lire ceci. Ce livre est une sorte de mémoire écrit pour défendre la sociologie dont nous considérons souvent qu'elle est injustement décriée. Est-ce que vous pensez vraiment que la sociologie est aujourd'hui décriée ?
Écoutez, je pense qu'il appartient à la sociologie d'être une discipline en crise. J'ai lu récemment les cours au Collège de France de Raymond Aron, qu'il a professé en 69-70, qui porte entièrement sur la crise de la sociologie. Et la sociologie est née au 19e siècle pour essayer de répondre à cette grande crise européenne, mondiale, bientôt mondiale, qu'avait été la Révolution française. Et donc, si vous voulez, il est dans le destin de la sociologie d'être en crise. Ce qui est une excellente chose dans un sens, c'est que ça l'oblige à réfléchir sur elle-même et que ça stimule la réflexivité qui est le rôle, au fond, qu'elle joue dans la société.
Donc, pas besoin de la défendre, finalement. Il vaut mieux même œuvrer à cette crise, Luc Boltanski.
Il faut lui maintenir son lustre. Il faut qu'elle puisse être désirée. Quand je suis rentré dans la sociologie, j'avais 20 ans. J'avais jamais lu une ligne de Durkheim. J'ai essayé de lire un petit peu de Durkheim, son traité de sociologie. Ça m'a beaucoup ennuyé. Mais
oh, c'est quand même pas mal.
Ben non, Durkheim c'est bien. Non, il y a des livres bien et la pensée est intéressante.
Mais pourquoi ça vous ennuie?
Si vous avez 20 ans et que vous prenez les guerres civiles, la guerre civile en France de Marx, ou vous prenez un manuel pédagogique durkheimien,
c'est pas la même.
C'est pas la même excitation. mais malgré tout, tous mes copains les plus intéressants allaient vers la sociologie et j'y suis allé aussi. Et donc un des buts de ce livre, c'était que ça fasse, c'était de maintenir l'excitation que peut donner le travail sociologique à des gens qui ont entre 20 et 30 ans.
Bonjour Jeanne Lazarus.
Bonjour.
Vous venez d'arriver, monsieur. Luc Boltanski vous salue aussi. Je demandais à Luc Boltanski à l'instant, je citais l'avant-propos où vous disiez que la sociologie était décriée et que ce livre, Comment s'invente la sociologie, était là aussi pour la défendre. Est-ce que vous trouvez vraiment, vous, que la sociologie est décriée, sachant, je vais un peu corser ma question, qu'on voit énormément de sociologues dans les médias, qu'on fait part de leurs publications, qu'ils ont en fait accès aussi aux responsables politiques.
Oui, alors c'est tout le paradoxe de la sociologie. C'est à la fois une discipline qui est connue, qui est appréciée, qui est parfois lue en dehors du monde universitaire, mais qui reçoit aussi beaucoup de critiques autour du fait qu'elle serait politisée, qu'elle ne serait pas suffisamment scientifique, et puis que finalement ce ne serait peut-être pas vraiment une discipline universitaire parce que pas très éloignée de commentaires que chacun et chacune peut faire au jour le jour. Et c'est justement ces questions-là qu'on a voulu regarder de près, avec une interrogation sur la demande sociale que reçoit la sociologie. Donc c'est en fait c'est plutôt bien d'être critiqué parce que ça veut dire qu'on existe. Hein,
on peut vous retrouver, exactement, c'est ce qu'a dit Luc Bolkonski juste avant.
C'est parfait. Et ça veut dire aussi que on est sociologue un peu chargé de répondre à cette demande sociale. Et c'était l'un des débats qu'on a pu avoir. Comment on fait ? Est-ce qu'on accepte de répondre aux questions telles qu'elles sont posées par ceux qui nous les posent ? Est-ce qu'on change les questions ? Ça, c'est souvent les universitaires adorent faire ça, dire que la question n'est pas bien posée, qu'il faudrait replacer les termes du débat autrement, etc. Et c'est toutes ces questions que on aborde dans le livre, en ayant chacun notre regard. Évidemment, souvent, on se retrouve, comme à l'instant, mais parfois, on a aussi un peu de différence, heureusement, sinon il n'y aurait pas d'échange.
Alors, effectivement, ce livre, il est constitué de trois parties. Il y a une partie où vous revenez sur votre parcours, une partie où vous revenez sur la méthode, une partie aussi sur le rapport à la société, c'est la sociologie dans la société. Et j'aimerais venir tout de suite à cette question qui est importante, parce que vous l'avez soulevée, Jeanne Lazarus, c'est que la demande sociale, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est des hommes politiques, des responsables politiques qui tout à coup auraient soulevé des sujets dont vous devriez vous saisir, par exemple, je ne sais pas moi, l'éducation, les inégalités sociales, le rapport à l'alimentation, ou est-ce que c'est vous qui repérez des phénomènes dont vous allez vous emparer en fait ? Cette demande sociale, elle émane de qui ? De responsables politiques ou d'individus autour de vous dont vous remarquez des comportements à grande échelle ? Luc Bolkonski.
Mais écoutez, vous avez très bien posé la question. La sociologie a deux objets. Elle a d'abord un objet qui sont ce qu'on appelle les problèmes sociaux. On va lire, on va entendre à la radio, on va lire dans les journaux. En ce moment, par exemple, je prends un exemple qui me passe par la tête, l'agressivité à l'égard des mères est un problème social. Bon, ce sont des problèmes dont la sociologie peut étudier d'ailleurs comment ils deviennent des problèmes, mais qui sont souvent livrés à des sociologues. On se dit, on va demander à des sociologues de travailler sur ces problèmes sociaux. Et les sociologues doivent le faire.
Mais qui demande, pas les mépriser. Qui demande dans ces cas-là ?
Quoi ?
Qui demande, par exemple, dans ces cas-là ?
Qui demande ? Ça peut être des organismes d'État, des organismes de ministère. Ça peut être ça peut être aussi des organismes critiques qui disent mais on nous répète sans arrêt que les maires sont attaqués, mais on ne se demande pas pourquoi ils le sont, et il faut aussi interroger les gens qui sont accusés de ces méfaits. Bon, vous avez aussi des organismes, vous avez à la fois des organismes de maintien de l'ordre, on va dire, et des organismes critiques. C'est un objet que les sociologues doivent respecter. Ils doivent répondre à cette demande. Mais elle n'est pas toute la sociologie. Parce que ce qui intéresse les sociologues en tant que sociologues, en tant qu'ils appartiennent à leur discipline, c'est des questions sociologiques. C'est-à-dire, c'est des problèmes qui concernent la société dans son ensemble, qui concernent les concepts nécessaires pour étudier les problèmes sociaux. Et donc ça doit être un va-et-vient entre ces problèmes sociaux qui arrivent de l'extérieur et qui sont externes, et des questions sociologiques qui naissent à l'intérieur. Je vais vous donner un exemple de question sociologique.
Qu'est-ce qu'une question sociologique ?
Une question sociologique qui moi personnellement me préoccupe beaucoup, mais je ne suis pas le seul et je n'ai pas la réponse. C'est que quand vous faites une sociologie de petits groupes, d'une association, de deux associations, vous avez des méthodes et vous avez des résultats qui sont d'un certain type. Quand vous faites, on appelle ça une micro-sociologie, et vous étudiez une situation particulière, comme celle dans laquelle nous sommes tous plongés tout de suite, quand vous faites une sociologie pour des vastes ensembles, pour ce qu'on va appeler des sociétés qui sont généralement des sociétés nationales et étatiques, vous avez des statistiques, vous avez des méthodes, vous avez des théories, mais les deux types de sociologie ne coïncident très difficilement. Vous passez très difficilement des résultats d'une micro-sociologie à des résultats d'une macro-sociologie et vice-versa. Et c'est un très vaste problème sur lequel on pourrait, mais je ne souhaite pas en parler pendant des heures, qui est très compliqué et qui engage des questions qui sont aussi des questions philosophiques.
Alors, par exemple,
ou anthropologiques.
Voilà, alors c'est quoi une question sociologique, Jeanne Lazarus, là, dans ce cas-là? C'est l'articulation entre la micro-sociologie et la macro-sociologie, ou la macro-sociologie, c'est une manière de reformuler des problèmes comme on fait aussi en philosophie. Par exemple, si on a, obtenir des choses rend heureux, on répondra jamais à cette question en philosophie. On va pas formuler un autre problème. C'est pareil pour la sociologie ?
Oui, c'est pareil. Et la sociologie a des liens avec la philosophie. Un certain nombre des sociologues fondateurs avaient d'abord suivi des études de philosophie, étaient souvent agrégés de philosophie. Et c'est donc pas complètement surprenant qu'on retrouve le même genre de procédé.
Sauf que vous, c'est après vos enquêtes, en fait, que ça arrive, ces questions-là.
Pas forcément. Alors, ça fait partie après de la diversité des sociologues. Certaines façons de travailler vont commencer par partir d'un problème social et puis, pour y répondre, rencontrer des questions sociologiques. Et puis, dans d'autres cas, certains sociologues sont plus théoriciens ou sont mus d'abord par répondre à des questions sociologique, donc on pourrait dire des questions un peu disciplinaires, universitaires, qui ont plus comme lieu le séminaire ou des documents très très internes à la discipline. On peut partir de ce genre de questions-là et puis après chercher un terrain pour essayer de les explorer. Et c'est là la différence peut-être avec la philosophie, c'est que on ne peut pas faire de sociologie sans passer beaucoup de temps à regarder le monde, ce que nous appelons le terrain, et qui peut là aussi avoir de multiples formes, être très micro et observer des gens dans leur vie quotidienne. Ça peut faire des statistiques. C'est aussi une autre façon de faire du terrain. Mais il y a un moment où ces questions sociologiques se confrontent à ces données. Et c'est dans cette articulation-là que se fait la sociologie.
Et vous appartenez à quel type de méthode? Vous avez quelle méthode, Luc Boltanski et Jeanne Lazarus? Je précise en fait que vous le dites hein, dès le début de votre livre, vous appartenez quand même à la même école. Jeanne Lazarus, vous avez découvert la sociologie en lisant du Luc Boltanski, en suivant aussi ses cours. Vous, c'est quoi votre méthode,
Jeanne Lazarus? Alors moi, j'ai une méthode assez peu cadrée, si on peut dire.
Chaotique.
Oui, et en même temps, bon, je raconte aussi dans le livre que j'ai une formation très classique d'Hippocane, de Cagne, je sais faire des dissertations, etc. Donc c'est pas non plus complètement anarchiste. Mais moi, j'ai toujours travaillé en essayant, disons, de suivre ma curiosité. Et donc de partir de questions qui m'intéressaient ou de lieux qui m'intéressaient, et puis d'aller voir les gens, de commencer par
identifier des lieux où vous pourriez poser cette question de manière plus adéquate.
Oui, et donc bon, moi je me suis intéressée aux questions d'argent et je me suis dit qu'un endroit où voir l'argent, c'était d'aller dans les banques. Donc je suis allée dans les banques voir ce qui s'y passait. Donc j'ai commencé par simplement regarder, écouter, et à partir de ça, essayer de me dire bon, quelles questions je vais poser là-dessus, parce que on peut décrire, mais c'est une des parties du travail, mais ça suffit pas. Et donc ensuite, pour chercher des questions, eh bien là, je me suis plongée plutôt dans des choses plus théoriques, et notamment dans les travaux de Luc, mais pas uniquement, pour essayer de voir ce que tout ça pouvait avoir d'intéressant pour quelqu'un d'autre que moi, c'est-à-dire pas juste quelqu'un qui avait envie de savoir ce qui se passait dans une banque, mais de se demander qu'est-ce que ça avait comme signification sociale, de se dire que la banque, c'était un endroit où tout le monde passait. Je me suis aperçue assez vite que dès que je disais que je travaillais sur les banques, au début, les gens me disaient « Mais pourquoi tu travailles là-dessus ? » Et puis, 5 secondes plus tard, ils me disaient « Ah, mais justement, j'ai vu mon banquier il y a quelques semaines et il s'est passé telle chose et telle chose. » Donc, en fait, on a plein de choses à raconter là-dessus et que c'est un sujet qui est au cœur de la vie quotidienne, de la construction du salariat, de la construction de la classe moyenne. Et progressivement, c'est autour de ces questions-là que j'ai creusé et que j'ai construit des questions plus théoriques. Et puis, progressivement aussi, l'idée, c'est d'arriver à construire des concepts, soit d'emprunter des concepts qui existent déjà et de les faire travailler avec les données qu'on trouve, soit sur le terrain qu'on a, de trouver des concepts qui vont nous aider à articuler tout ce qu'on trouve.
Luc Boltanski, je vais vous reposer la question de votre méthode, de votre école, votre manière de travailler. Mais avant, j'aimerais qu'on écoute la voix d'un grand sociologue qui, lui aussi, est passé par la philosophie.
Bon, il est vrai que la sociologie n'est pas toujours facile à vivre. Lorsque, par exemple, je vais parler de sociologie à des non-sociologues, à des non-professionnels, je suis toujours partagé entre deux stratégie possible. La première qui consiste à présenter la sociologie comme une discipline académique, enfin comme s'il s'agissait d'histoire ou de philosophie. Et dans ce cas, bon, j'obtiens un accueil intéressé, mais précisément académique. Ou bien je cherche à exercer l'effet spécifique de la sociologie, c'est-à-dire je cherche à mettre mes auditeurs en situation d'auto-analyse. Et à ce moment-là, je sais que je m'expose à devenir le bouc émissaire, finalement, de l'assistance. Bon. Je pense que la vérité sociologique, enfin je mets vérité, mon hésitation marque des guillemets, hein, la vérité sociologique a une telle violence qu'elle blesse, enfin, elle fait souffrir. Et du même coup, les gens se libèrent de cette souffrance en la reprojetant sur celui qui apparemment la cause. Enfin.
La voix de Pierre Bourdieu, c'était sur France Culture dans l'émission À Voix Nue en 1988.
Luc Boltanski, vous avez été proche de Pierre Bourdieu, vous avez travaillé avec lui. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça vous agace au bout d'un moment d'entendre la voix de Pierre Bourdieu dès qu'on parle de sociologie, surtout que vous vous êtes écarté de sa méthode et son type de sociologie, qui est la sociologie critique, pour former ce qu'on appelle une sociologie pragmatique.
Ça ne m'agace pas, ça m'émeut, parce que c'était une grande partie de ma jeunesse. J'ai eu beaucoup de chance de travailler dans cette équipe, où j'ai appris énormément de choses. Et puis je m'en suis écarté. Vous savez, même dans la Bible, on dit qu'il faut quitter son père et sa mère. Et en science, être fidèle à ses idées n'est pas une qualité formidable. La meilleure qualité, c'est d'essayer, à ses risques et périls, d'avancer, d'aller où on souhaite aller, de façon à décrire le monde d'une façon différente de celle dont elle a été décrite jusque-là. Et donc, petit à petit, j'ai beaucoup travaillé avec Bourdieu, effectivement, des journées entières, et je dirais même des nuits entières, parce que c'était un travailleur de nuit. Mais petit à petit, mes intérêts se sont détachés, et je dirais ça de façon très simple, si vous voulez, c'est que l'intérêt principal de Bourdieu, il est tout à fait légitime en sociologie, était de découvrir des régularités statistiques, notamment en ce qui concerne les classes sociales. Et moi, assez vite, et pour ça, il avait un modèle qu'on appelle dispositionnel, c'est-à-dire l'idée que, du fait de leurs conditions de vie dans l'enfance, les personnes acquéraient une certaine manière d'être, et que c'était ce passage de l'enfance à l'âge adulte et de cette manière d'être où ils allaient agir dans le monde, qui reproduisait les classes sociales et qui reproduisait la société. Et donc c'était d'une certaine façon une réponse au problème micro-macro dont je parlais tout à l'heure. Et évidemment, ça supposait quelque chose comme un inconscient, comme la référence à un inconscient. Et moi, j'ai pris une autre voie qui était de prendre au sérieux les prétentions des gens, y compris leurs prétentions à la justice et à la morale. Et avec un collègue dont j'ai beaucoup appris, qui s'appelle Laurent Thévenot, qui était un X de l'INSEE, nous nous sommes lancés dans une série d'enquêtes sur des disputes, particulièrement. Parce que dans les disputes, les personnes expliquent, c'est des critiques. Et « Pourquoi tu m'as dit ça ?» Alors, ils sont obligés de produire des justifications de ce qu'ils ont dit.
Ça s'appelait de la justification, d'ailleurs.
Et donc, le livre s'appelle « La justification », et on y voit des gens qui ne sont pas simplement, qui n'ont pas simplement des dispositions inconscientes qui les amènent à agir d'une façon ou d'une autre, mais qui sont contraints par la situation de motiver leur façon d'agir, et nous avons considéré qu'il fallait prendre aussi au sérieux cette façon de motiver sa façon d'agir, et nous sommes passés à un modèle qui n'était plus un modèle de disposition, mais un modèle de compétences. Quelles sont les compétences dont chacun dispose pour faire face à une situation ?
C'est un petit peu la critique qu'on peut souvent faire à la sociologie de loin, c'est-à-dire de décrire des régularités, de décrire des individus qui seraient passifs, dépourvus de toute liberté. Or vous, vous avez décidé de passer d'un sujet qu'on va étudier à un acteur. Mais en sociologie, comment on peut conceptualiser ou modéliser des gens dont on pourrait se dire qu'ils agissent de leur propre initiative, indépendamment des autres ?
En considérant qu'ils ont une langue commune, qu'ils ont une langue commune de l'action, et que si par exemple, à ce micro, je me mettais à raconter ma vie familiale pendant ce week-end, ça ne serait pas ajusté. J'ai un savoir, une compétence de la parole publique, même si ici, nous sommes absolument pas en public, mais dans le privé. Eh bien, c'est vrai pour toutes les, pour tout le monde et pour tout un ensemble de situations. Et je vais pas vous raconter longuement ce que j'ai fait, mais j'ai étudié notamment des gens qui étaient accusés de se conduire anormalement dans des situations en traitant cela comme, des fautes dans la compétence sociale qui peuvent entraîner très loin, qui peuvent entraîner une perte de travail, qui peuvent entraîner même des internements, ou etc.
Jeanne Lazarus.
Oui, ça permet de revenir à votre question tout à l'heure sur la méthode. Et la méthode, c'est aussi ce qu'on cherche quand on fait un travail de sociologie. On l'entendait dans l'extrait que vous avez passé de Pierre Bourdieu, quand il dit qu'il met les gens... Dans un état désagréable en leur disant, vous pensez que vous agissez librement, mais moi je sais, parce que je suis sociologue, que vos actions sont liées à votre socialisation et à diverses contraintes. Et effectivement, c'est extrêmement violent. Et c'est pour ça que, quand vous dites que j'ai découvert la sociologie avec Luc Boltanski, ce que j'ai découvert, c'était une autre façon de faire de la sociologie. Ou c'est pas ça la question qui est posée. La question qui est posée, c'est quelles sont les normes dont on dispose à un moment donné. Et donc le travail consiste justement à comprendre dans quel espace on se trouve. Et donc par exemple sur les questions d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent ? Qu'est-ce qui est autorisé, non autorisé ? Et donc quand on va regarder un groupe social, on va se demander. Quelles sont les normes qui fonctionnent dans ce groupe social et à quel moment est-ce qu'on les transgresse ou on ne les transgresse pas ? Et ça permet, en fait, de ne pas poser la question de savoir s'il y a des dispositions ou bien, finalement, même de la reposer, la question des dispositions. On a différentes normes disponibles et oui, on peut avoir des dispositions, aller vers telle ou telle autre, mais c'est plus ça la question qu'on se pose parce qu'on ne se pose plus des questions sur les individus et sur le fait de vouloir absolument placer des individus dans des trajectoires, c'est plus ça le...
C'est presque l'enjeu. L'inverse, en fait. C'est-à-dire que vous partez d'un phénomène que vous allez observer, dont vous allez percevoir des régularités, plutôt que de rencontrer des gens dont vous allez dire à quelle case ils correspondent, dans quel phénomène je vais les faire rentrer. Luc Boltanski.
Je peux vous donner un exemple très simple. C'est un livre que j'ai écrit avec Arnaud Esquiré, qui était le troisième de notre petite bande pour faire comment s'invente la sociologie.
Donc
c'est même
livre,
lui qui
oui.
a trouvé le titre du livre. Et c'était un livre sur le commerce. C'était que ça s'appelle notamment sur le commerce. Ça s'appelle Enrichissement. Et une question que nous sommes posées, c'est quelle est cette compétence que chacun d'entre nous sait mettre en œuvre pour se débrouiller dans un monoprix, se débrouiller dans un petit commerçant de quartier, se débrouiller dans un grand magasin, mais le même va être perdu si vous le projetez dans un bazar au Maroc. Il ne saura plus comment mesurer la qualité des produits, il ne saura plus comprendre la question du prix, il va être perdu dans les marchandages. Eh bien, ce sont des d'une façon très simple d'exprimer le thème, évidemment, mais ce sont des compétences que nous avons tous intégrés et qui font le lien à l'intérieur d'une société et qui évitent des malentendus pouvant se terminer en dispute très facilement.
Alors je vais vous poser une question qui va peut-être un peu vous choquer, mais à quoi ça sert de savoir ça ? À quoi ça sert de travailler là-dessus ? En fait, de savoir que quand on va à la banque, on rentre dans un certain nombre de normes, que quand on va dans un commerce, quand on va dans un monoprix ou dans un autre magasin, c'est pas la même manière de s'en sortir. Moi, par exemple, qui ouvre ces livres-là, qu'est-ce que ça va me faire de le savoir ? Jeanne Lazarus.
Ça va vous aider à avoir une certaine réflexivité sur ce que vous faites, ce qui est toujours une bonne chose pour comprendre au jour le jour les réactions qu'on peut avoir. Ça peut aussi aider à un certain humanisme, et je dirais que c'est aussi une des choses qui nous réunit peut-être tous les trois dans ce livre. C'est un rapport un peu généreux aux autres. De savoir que les normes sont diverses, que chacun, et ça c'est une chose qui est très forte dans le travail que Luc avait fait avec Laurent Thévenot, chacun pense agir de façon juste, le plus souvent. Et c'est ça qui est très compliqué dans les disputes. Les disputes deviennent très violentes quand chacun est persuadé d'avoir raison et que l'autre ne veut pas accéder aux arguments qu'on donne parce que il est, lui, sur un autre cadre de justification. Et donc, c'est à ça que ça sert. C'est à mieux se comprendre les uns les autres, à comprendre ce qui se passe, à comprendre aussi des rapports de force. Parce que imposer une norme à un moment donné aux autres, il n'y a rien de plus, de plus
aliénant.
Aliénant. Et puis c'est un rapport de pouvoir extrêmement puissant.
Donc il n'y a pas que la question de la justice, il y a aussi la question de la liberté. Si je vous pose la question, c'est que j'ouvre un livre de sociologie, qu'est-ce qui va être mis en œuvre pour me libérer ? C'est-à-dire que le lire va me faire prendre conscience de normes et de déterminismes dont je n'aurais pas eu idée. Et d'une certaine manière, c'est une forme de libération. C'est un petit peu ce qu'a voulu faire, par exemple, Spinoza avec l'éthique. Voilà, on est tous déterminés, il n'y a pas d'empire dans un empire. Et donc, de savoir que je suis déterminée fait que déjà, je peux acquérir une forme de liberté. Ou est-ce que, en lisant vos ouvrages de sociologie, vos travaux, je ne vais pas seulement prendre conscience des mécanismes qui m'aliènent, mais je vais pouvoir aussi peut-être m'engager, agir dessus, essayer de m'en détacher.
Mais Luc Boltanski. Si vous voulez, la sociologie prend très au sérieux un type de compétence dont on considère qu'il est sans doute anthropologique et en tout cas très développé dans les sociétés modernes, qui est la compétence à faire de la critique, à critiquer. Et un des rôles de la sociologie, c'est de prendre au sérieux cette critique et de faire parler les gens de cette critique, de les faire justifier cette critique, de façon à en évaluer la cohérence et en asseoir le sérieux. Et donc, si vous voulez, c'est un rôle social qui est très important, qui n'est pas simplement le rôle critique, est aussi qui peut être un rôle de défense de certains dispositifs d'ordre, mais c'est là que se fait le lien entre la sociologie et la politique, si je puis dire, avec des différences dont on parlera peut-être si on a le temps, qui sont gigantesques. Mais si vous voulez, c'est devenu un organe de la société, comme le métier que vous faites, comme le métier des médias, un organe de la société qui lui permet de contrôler mieux ce qu'elle fait, d'être réflexive et de mieux entendre les critiques et de mieux entendre les justifications faites par ce que l'on critique, de façon à essayer de résoudre les problèmes non par des préjugés, mais de façon pacifique, si je puis dire, ou de façon rationnelle même.
12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
On peut dire que la célèbre définition d'Aristote, l'homme est un animal politique, ce qui signifie dont la nature est de vivre en groupe, que ce groupe soit de nature politique comme le clan, la cité, la tribu, la nation, l'empire, ou de toute autre nature, contient déjà en germe la sociologie. Scène, décor, rôle, dialogue, personnage, tout se tient dans le drame social. Sciences sociales et sciences humaines ne sauraient donc cohabiter en vertu de leur unité profonde. Mais que leur demeure soit commune ou simplement voisine, un fait est certain, c'est que sous l'un ou l'autre de leurs trois noms, sciences humaines, sciences sociales ou sociologie, elles sont de plus en plus à l'ordre du jour des préoccupations contemporaines.
En 1953, dans Université radiophonique internationale, la voix du sociologue français Georges Davy.
On peut dire, vous en avez parlé, Luc Boltanski, vous avez parlé de la politique, on peut dire que la politique et la sociologie ont la même substance, qui est la vie en société, mais ils n'ont pas les deux n'ont pas les mêmes horizons. Comment bien distinguer le travail, l'approche des sociologues du travail des politiques ? Ça semble évident a priori. Et en fait, on reproche souvent aux sociologues d'être de parti pris, en fait, d'indiquer peut-être des problèmes, des solutions qui seraient sensiblement colorées politiquement. Alors, quelle différence faire entre les deux, Jeanne Lazarus?
Ça, c'est une question qui nous a beaucoup occupés. Pas forcément de faire une différence, mais plutôt de comprendre comment la sociologie doit répondre à cet enjeu qui est qu'elle est mobilisée par la politique, que ce soit les partis politiques, les syndicats ou enfin.
Ah, c'est pas que des individus seuls qui lisent de la sociologie chez eux.
Oui. Et les sociologues sont à la fois critiqués pour ça et aimés pour ça. Et par ailleurs, la plupart des gens qui s'engagent dans la sociologie sont des gens qui ont envie d'agir sur le monde, pas forcément en étant eux-mêmes en responsabilité, mais évidemment, dans ce regard un peu extérieur, il y a bien un but de transformation. Donc le lien avec la politique, il doit être assumé. En revanche, toute la difficulté, c'est de s'assurer qu'on fait un travail qui est reconnu comme étant un travail universitaire et donc qui a cette légitimité-là avant de pouvoir éventuellement être mobilisé dans un espace politique. Et donc là, c'est toute la question de comment on fabrique une discipline universitaire.
Comment on tombe pas dans l'opinion ?
Comment on tombe pas dans l'opinion et puis comment est-ce qu'on fait la différence entre un sociologue et puis quelqu'un qui n'est pas sociologue? Est-ce que quelqu'un qui nous parle des rapports hommes-femmes est forcément sociologue? Pas forcément, mais on peut avoir des sociologues qui vont le faire. Et donc il y a la question de la différence avec la politique, mais il y a la différence avec plein d'autres choses. La différence avec le journalisme, la différence avec simplement des gens qui regardent le monde, avec la littérature. Donc toutes ces questions-là de différence. Toutes les sciences humaines ont ce genre de questions. L'histoire a aussi une longue tradition de discussion avec la littérature. Qu'est-ce qui fait que c'est de l'histoire ou pas de la, ou de la littérature? On est sans cesse troublé par ça, avec une discipline qui, à la différence d'autres, n'a pas de frontières extrêmement marquées. Ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté ensemble. L'entrée dans la sociologie semble une entrée plus facile que vers d'autres disciplines plus techniques ou qui reposent sur un savoir très encyclopédique et donc
comme l'histoire par exemple,
comme l'histoire ou la philosophie qui peut sembler parfois plus difficile, nécessiter d'avoir énormément travaillé.
Il y a une histoire qui est plus grande aussi de la philosophie de ce point
oui,
de vue-là.
Donc il y a évidemment le fait que la sociologie est une science relativement jeune et puis que les sociologues entre eux passent leur temps à se dire que les autres ne font pas ce qu'il faut, à dire aussi que lui n'est pas un vrai sociologue, ce qu'on entend moins dans d'autres disciplines où
ça c'est vrai,
où les gens peuvent se dire qu'ils n'aiment pas la philosophie d'un tel ou d'un tel, mais ils ne vont pas lui dire ce n'est pas un vrai philosophe.
Et alors qu'est-ce que vous répondez justement à ça, vous deux, quand on attaque la sociologie en disant c'est de l'opinion, c'est du militantisme? C'est une vraie question qui se pose, d'autant que vous avez des querelles. Voilà, vous avez des écoles, des clans de sociologie qui sont différents. Comment vous faites pour faire face, pour prouver la validité scientifique de vos théories face à d'autres, non seulement productions, mais face aux détracteurs, Luc Boltanski?
Je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses dans votre question. Il faut distinguer les débats entre sociologues sur le plan des méthodes et des théories. Ça, c'est très comparable à ce qui se passe dans les autres sciences. Il n'y a pas plus méchant que les scientifiques les uns avec les autres. Parce que chacun est persuadé qu'il détient la vérité. Rien n'est plus dangereux qu'un scientifique. Il ne faut jamais les mettre au pouvoir. Il ne faut jamais leur donner de pouvoir parce qu'ils mettraient tout le... Bref, j'arrête là. Donc ça, c'est un point, si vous voulez, qu'il faut savoir que c'est ça être dans ces métiers-là. Par rapport à l'extérieur, le problème, c'est que la sociologie doit être poreuse. C'est un organisme poreux. Ça doit être poreux par rapport à l'extérieur, puisque son objet, c'est l'extérieur, et que c'est la même substance qui agit, sur laquelle agit la politique et que décrit le sociologue. Mais en même temps, la sociologie ne doit pas se laisser envahir complètement par les problèmes de l'extérieur. Alors, si vous voulez, une des façons de faire qui a été théorisée il y a bien longtemps, notamment par Max Weber, que je reprendrai à partir du principe de symétrie. qui a été inventé par un sociologue de la science et qu'a repris Bruno Latour, dont on était très très proche, et qui était un des grands penseurs de cette nouvelle sociologie, qui est le principe de symétrie. Quand vous étudiez une dispute scientifique du passé, eh bien, vous ne devez pas le faire à partir de nos connaissances actuelles. Vous devez donner le même poids à celui qui a perdu, si je puis dire, qui se trompait, et à celui qui a réussi, c'est-à-dire qui est considéré aujourd'hui comme ayant eu raison. Parce que sinon, vous faites une histoire téléologique et vous ne rendez pas justice à celui qui s'est trompé, qui avait des raisons de se tromper. Eh bien, si vous voulez, on retrouve ça dans le rapport entre sociologie et politique. Un homme politique qui pratiquerait le principe de symétrie, il serait considéré comme nul. Il dirait, voilà ma position, mais alors l'autre, elle est très bonne aussi. Non, parce que la politique, c'est de prendre des décisions et c'est d'agir sur le monde. Mais un sociologue n'a pas directement à agir sur le monde. Il a d'abord à bien décrire la façon dont ce monde est constitué, quelles sont les disputes et les critiques qui animent ce monde, et puis ensuite, en tant que citoyen, il peut très bien signer une pétition et avoir ses choix. Mais dans son travail de sociologue, il doit pratiquer un principe de symétrie et décrire de façon à peu près égalitaire les différentes personnes qui sont en face de lui dans une dispute.
Est-ce que vous voulez ajouter un tout dernier mot, Jeanne Lazarus ?
Oui, non, cette question du lien avec la politique, je pense que c'est peut-être dans le livre, là où en fait on fait aussi une sorte de programme de travail, parce que c'est pas quelque chose qui est évident, et les critiques que reçoit la sociologie, il faut aussi les entendre. Et donc, c'est aussi important de comprendre ce que Luc vient de dire, c'est les raisons pour lesquelles le problème est structurel, et donc que la sociologie se mobilise aussi pour essayer de mieux se défendre, parce que dans un certain nombre de cas, on est pris dans des pièges du fait de cette discipline qui est externe, interne, et qui est à la fois qui sait très bien ce qu'elle est, mais qui parfois donne l'impression d'être un peu brumeuse et de se mélanger avec d'autres.
Merci beaucoup à vous deux, Jeanne Lazarus et Luc Boltanski, de vous, et écrit aussi avec Arnaud Escar. On peut lire Comment s'invente la sociologie, parcours, expérience et pratiques croisées aux éditions Flammarion. C'est passionnant et je suis sûre que ça va éveiller des vocations de sociologues.
Vous allez vous mettre d'accord dans un instant, puisqu'il faut choisir une chanson pour terminer l'émission. Une chanson sur le laboratoire, une chanson sur le terrain. Laquelle choisissez-vous ?
Et merci pour vos questions.
Ah ben merci à vous.
Extrêmement pertinent. Sur le laboratoire.
Alors c'est Jeanne Lazarus qui a choisi le laboratoire.
Is Punjab of a dub monster from heaven, Lee Scratch Perry. Rocking and leaning, having a ball, swinging and singing, straight jacket and all.
He's coming, watch out.
From the rock man, dandelion musical rain, the master brain, jackpot, the mastermind, the mastermind.
He's coming.
Un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés tous les jours par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delassalle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Jean-Guilain Mège. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Midis de Culture et sur l'application Radio France. À demain, Nicolas.
À demain, j'ai raté.